On approche de la fin de la première épître de Paul à Timothée et on va aborder aujourd'hui dans le chapitre 5, si vous voulez vous y tourner avec moi, chapitre 5, le verset 17. Encore une fois, pour ceux qui sont habitués à notre Église, d'étudier le texte semaine après semaine, livre après livre, pour voir toute la Bible, c'est quelque chose qui vous est familier. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose de très courant, notamment en France, et que c'est biblique d'étudier tout le conseil de Dieu, pas seulement les passages qui nous plaisent. On a souvent des petites marottes en tant que croyants, et on aime bien revenir toujours sur les mêmes textes. Ce qui est remarquable, c'est de voir qu'en suivant, en faisant des études en suivi comme ça, on touche à beaucoup, beaucoup de sujets, et des sujets que des fois on préférerait éviter, soit parce que ce sont des sujets qui sont objets de controverses, soit parce que ce sont des sujets qui peuvent concerner le pasteur. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du fait qu'un pasteur doit être payé par sa congrégation. Et ce n'est pas le genre de sermon facile à dire, tiens, aujourd'hui, je vais leur faire savoir qu'il faut que je suis dans le besoin, j'aimerais bien acheter ce nouvel iPad. Donc je vais... On sourit, mais malheureusement, si on n'a pas un plan régulier d'étude de la Bible, ça risque des fois d'être cela. Sans parler, on y reviendra, de la doctrine de la prospérité, où on vous dit que si vous voulez avoir, il faut donner, et donner à l'Église, et il y a souvent des excès impardonnables et qui ne seront pas pardonnés par le Seigneur, j'en suis sûr, parce que ça déforme complètement la vérité de son amour, lui qui, nous n'avons rien, il nous donne tout, et surtout il nous donne nos besoins. Des fois il ne nous donne pas le superflu, et il le fait parfois aussi. Mais on va lire ensemble donc à partir du verset 17. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture, dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire ». Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. On va lire les deux prochains versets du chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des croyants pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Voilà, on commentera peut-être ces deux versets. Avant d'aborder un autre sujet aussi très important, l'amour de l'argent, la semaine prochaine, Dieu voulant. On a dit que cette lettre était écrite par l'apôtre Paul à son protégé, à son disciple, jeune pasteur, jeune ancien. On peut être à la fois jeune et ancien. L'ancienneté, le mot ancien, a rapport à la maturité spirituelle. Et je viens de passer une semaine dans une conférence en Scandinavie avec plusieurs pasteurs. Et j'étais sans doute un des pasteurs les plus âgés. Et j'étais vraiment béni par l'enseignement de pasteurs qui ont une vingtaine, une trentaine d'années. L'âge n'a rien à faire avec la maturité spirituelle. On peut être jeune et très mûr dans le Seigneur, et à l'inverse, on peut, si on n'a pas approfondi notre connaissance de la Bible, notre démarche avec Dieu, on peut se retrouver à un âge avancé et ne pas connaître grand-chose de la foi chrétienne. Et ce jeune pasteur, on a vu qu'il avait un arrière-plan qui faisait qu'il était un peu exclu dans sa communauté. Sa mère était juive, il vivait en Asie mineure, dans la ville de Lystre, mais son père était grec. Et quand on lit ça aujourd'hui, on dit, bon ben, Tonio, son père était français, mais sa mère était américaine. Et on dit, bon, ben, il y en a d'autres qui ont un papa algérien, une maman française, et on n'y part pas plus. Mais dans le texte, dans le livre des Actes, il est dit, mais son père était grec. Et ce mais, il est lourd de sens. Ça veut dire qu'en fait, c'était un bâtard. Ça veut dire qu'il n'était pas accepté dans la communauté juive où sa maman et sa grand-mère, Eunice et Loïs, vivaient. Elles lui ont appris les Écritures dès la plus tendre enfance, mais lui ne pouvait pas participer à la vie de ses copains, il ne pouvait pas participer à la communauté qui l'entourait, il n'a pas été circoncis, on le sait parce que Paul le circoncit lui-même des années beaucoup plus tard. Il n'a pas fait de bar mitzvah, il n'a pas pu lire la Torah en public, il était exclu, il était différent. Et ça, c'est pas nécessairement une fatalité psychologique ou humaine, mais le résultat, c'est que lui, c'était quelqu'un qui manquait d'assurance, il manquait de confiance. Et en fait, cette lettre de Paul à Timothée, c'est une lettre d'encouragement. Timothée avait été laissé à Éphèse, la grande ville d'Asie mineure, comme pasteur de l'église où Paul avait servi. C'était difficile de travailler dans l'église où Paul avait servi, j'imagine. C'était une place qui avait été si bien remplie que Timothée devait se dire « je ne suis pas à la hauteur ». Et la lettre de Paul à Timothée, c'est une lettre d'encouragement. Il y avait des difficultés, il y a des difficultés dans le ministère, et Paul voulait encourager son protégé parce que, de toute évidence, il avait l'idée de quitter son poste, d'abandonner le navire, comme on dit. Et on voit comment Paul l'exhorte à rester et il lui donne des instructions pour savoir comment on doit se conduire dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est au chapitre 3, verset 15. C'est le verset clé. C'est non seulement une lettre d'encouragement pour un disciple qui veut partir, qui veut abandonner l'Église, son poste, qui veut abandonner le combat, mais c'est aussi une lettre d'instruction pour ce disciple et pour nous tous. Non seulement les responsables, mais aussi tous les croyants de l'Église. Et il nous donne notamment une forte exhortation pour qu'il y ait un accent mis sur la sainte doctrine. Pas de nouveauté. On peut être de son temps tout en annonçant la même Bible. C'était intéressant, il y avait un jeune pasteur, Bob, qui est pasteur en Finlande, dans la ville de Turku, et qui a aussi un ministère à Helsinki. C'est encore une étude biblique à Helsinki, la capitale. Alors, il ne parle pas encore le finlandais, c'est une langue très difficile. Il enseigne en anglais, mais j'ai bien aimé, il utilise toujours la vieille King James. Et comme on explique le texte d'un français courant, on reprend les mots, on dit voilà ce que ça pouvait dire. Il dit, je prends le vieux texte, très poétique, très connu dans le monde anglais, et c'est ce qu'il utilise. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a une congrégation de jeunes très dynamiques. Et nous, on aurait peur de dire, oh là là, la King James, c'est vieux, c'est mort. La vieille seconde, oh là là, ça va. Pff. Quoi, la Osterwald? Oh non, c'est trop vieux comme version. Ce qui compte, c'est pas la nouveauté. C'est bien, je crois, d'avoir des textes que quelqu'un qui est nouveau dans la foi puisse comprendre en première lecture sans avoir un dictionnaire à côté pour la lire. Mais gardez-vous des nouveautés, de la mode. C'est bien, encore une fois, d'avoir une musique contemporaine, mais on aime beaucoup et j'apprécie beaucoup lorsque nos louangeurs, nos musiciens nous font chanter des vieux textes ou des traductions de vieux textes. Souvent, ils sont très riches de sens spirituel, ils sont basés sur la Bible. Quelquefois, les cantiques ou les hymnes plus modernes, les chants plus modernes, c'est un peu superficiel, c'est un peu émotionnel. Et il faut faire attention quand on à ce qu'on chante, et c'est plutôt la responsabilité de ceux qui vous dirigent dans le chant, de ne pas prendre des textes qui sont « moi, 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 moi ».« Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, aplanis mon sentier ». Et quand vous allez dans une église, essayez d'écouter un peu quel est l'objet des louanges. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le Seigneur à qui on rend gloire? Et c'est bon de s'oublier parce qu'on est vraiment rien devant lui. Et on ne prend toute notre réalité, on était fait pour le louer. Et on se sent bien quand on loue le Seigneur et quand on s'oublie, qu'on oublie nos problèmes à la lueur de la gloire de Dieu, à l'éclatante lumière plutôt de la gloire de Dieu, nos problèmes pâtissent en comparaison. Ils s'estompent et on les remet à leur juste place. Tout ça pour dire qu'il lui dit d'enseigner la vraie doctrine, celle qu'il a reçue de Paul, pas de chercher la dernière nouveauté éphésienne, la dernière mode, et il lui explique ensuite comment les différents groupes doivent se comporter. Il y a des hommes âgés, il y a des hommes jeunes, il y a des femmes âgées, il y a des femmes jeunes. Il y a des responsables, il y a des employeurs, il y a des employés. À l'époque, on avait des maîtres et des esclaves. Et même si il est vrai que on va pas revenir sur tous ces textes, il faut que vous sachiez qu'il y a devant Dieu, il y a une égalité Au pied de la croix, nous sommes tous égaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Souvent, les gens prennent le verset pour dire qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes, par exemple. Le fameux verset de Galates 3:28 où il est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec ». D'accord, il n'y a plus d'un côté les juifs et d'un côté les païens. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Donc il n'y a plus une différence entre les maîtres et les esclaves. On dirait aujourd'hui qu'il n'y a plus de différence entre les employeurs et les employés. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, si je regarde, je suis heureux de voir qu'il y a encore des hommes et il y a des femmes. Non, ce qui veut dire dans ce verset, c'est qu'il n'y a pas de différence dans l'amour de Dieu, dans la destinée éternelle, mais il y a des différentes situations. Peut-être vous vous êtes demandé pourquoi ce verset est ainsi structuré. Encore une fois, il faut se rappeler le contexte. Timothée, c'était un grec, c'était un petit païen. Il n'était pas juif. Et à l'époque, je vous l'ai signalé, la prière des juifs, des hommes, c'était de dire « Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Elohim, merci Yahweh, que je ne suis pas un païen. » Que je ne suis pas un esclave, que je ne suis pas une femme. Les païens, pour les juifs, c'était les briques de l'enfer, c'était le charbon qui permettait aux flammes de l'enfer de brûler. Les esclaves, c'était, bien que l'Ancien Testament et des provisions de bienveillance vis-à-vis des esclaves, c'était quand même pas une situation souhaitable. Et puis les femmes, on pouvait considérer qu'elles nous appartenaient. Dans la société du Nouveau Testament, il y avait même l'idéal, c'était pas d'avoir une femme, mais c'était d'en avoir trois. Il fallait une personne pour avoir des enfants, ça c'était la maman. Il fallait une personne pour pouvoir discuter et parler d'art et de science, aller au cinéma et discuter. Ça c'était la maîtresse, la courtisane plutôt, la femme de cour qui était raffinée. Et puis il y avait quelqu'un pour les besoins physiques, et ça c'était la maîtresse ou la prostituée, mais c'était vraiment, la femme n'était pas considérée. J'ai eu l'honneur, le défi d'enseigner le passage que je vous avais enseigné le jour de la fête des mères, sur le rôle de la femme, que la femme n'est pas appelée à être pasteur dans l'Église. Et le pasteur Dave Gouzy, qui était là, m'a dit: ça, c'est un grand honneur qu'on te fait. Tu vas devoir prêcher ce passage dans la société, dans la nation la plus féministe au monde. Heureusement, c'était déjà des chrétiens pour la plupart. Et même si je voyais que ça coinçait par moments, j'ai dit, c'est pas, encore une fois, c'est pas ma conviction, moi qui ai trouvé ces idées et qui m'en suis convaincu, c'est la Bible qui les enseigne. Et si nous suivons la Bible, nous faisons bien, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la façon de vivre et de fonctionner. Et j'ai eu l'occasion de voir que c'est une société très féministe. Quelqu'un a voulu aider une serveuse pour soulever une desserte pleine d'assiettes parce que quelqu'un avait cassé un verre, elle venait pour balayer. Et la personne a dit très, très gentiment, sans aucune implication, permettez que je vous aide un peu pour soulever ça. Et la personne s'est arrêtée, insultée, l'a regardée et lui a dit « Non, je suis assez forte pour faire ça moi-même. Vous abandonnez la galanterie en Suède. Sinon, vous vous faites attaquer. » On a vu une voiture de police arriver en trombe devant une entrée de métro. Et on s'en sortit deux belles blondes bardées de pistolets, de ceintures. Là-bas, il y a des voitures de police conduites, gérées par deux femmes qui se font sans doute respecter avec des tasers et des trucs. Mais j'avais un ami de New York, Bob, justement, et il les regardait, il était complètement incrédule, il a dit « Ah, je voudrais trop voir ça dans le Bronx. Voir ces... » Donc, encore une fois, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes au niveau de la destinée éternelle. Parce que les Juifs disaient « Merci que je ne suis pas une femme. » Et puis, ils remerciaient Dieu de ne pas être esclaves. D'où l'origine de cette affirmation de Paul. Il reprenait ce qu'il avait connu dès l'enfance, où on lui disait « Merci, apprends, dis merci à Dieu pour ton repas, mais dis surtout merci à Dieu parce que t'es pas païen, t'es pas esclave et t'es pas une femme. » Et justement, lorsque Timothée avait entendu ce pasteur qui venait dans son village et qui expliquait ça, il était prêt à le suivre au bout du monde, même aller à Éphèse et à rester là-bas. Les femmes, les anciens, les esclaves, ici on parle de la fin du chapitre 5, c'est les anciens, on a vu que c'était le même mot que les pasteurs, les évêques, les responsables d'église. Et voici comment il faut les traiter. Il faut d'abord les honorer. Que les anciens, c'est le même mot que le mot qui a donné évêque, épiscopos, c'est ceux qui surveillent, ceux qui veillent sur, donc ça désigne le pasteur, les anciens, le responsable. Et il nous dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Dieu merci, je passerai pour quelqu'un d'arrogant. Si vous avez des responsables d'église qui font du bon travail, il y a deux aspects. D'abord, présider, c'est organiser, c'est être devant pour organiser la vie de l'église et les cultes. Et dans certaines dénominations, il y a même une personne qui est spécialement chargée de cette activité de présider. On ne le fait pas pour des raisons de simplicité et aussi des convictions bibliques dans le mouvement Calvary. Ceux qui président bien, ceux qui font un bon travail, ils doivent être honorés d'un double honneur. Et le mot honneur, c'est aussi, des fois vous entendez parler des honoraires d'un médecin. La sécurité sociale va permettre au médecin d'avoir des honoraires un peu plus élevés. Et ce mot, double honneur, ça veut dire une rémunération. Autrement dit, il faut payer votre pasteur. L'Église doit payer son pasteur. Alors je sais que c'est pas le cas encore ici. C'est pas faute d'un manque de générosité de votre part, du fait que vous donnez votre dîme et plus pour certains, moins peut-être pour d'autres, mais vous donnez à l'Église. Et pour l'instant, ces sommes nous permettent de rembourser l'achat des locaux dans lesquels nous nous trouvons. Notre souhait, c'est soit de voir l'Église grandir, auquel cas une partie au moins d'un salaire pourrait être versée, et aussi le fait qu'à terme, quand il n'y aura plus à rembourser un prêt, vous serez à même de prendre en soin un ou plusieurs pasteurs. Alors, comment est-ce que nous vivons ? C'est bon aussi, quelque part, il y a une certaine liberté, mais ce n'est pas nécessairement biblique, au fait de savoir que tous vos dons, vos dîmes pour l'Église, ce n'est pas un salaire que vous ne contribuez pas du tout à notre salaire. Il y a une autre association maintenant qui, elle aussi, ne contribue en rien à nos salaires. C'est une association où vous pouvez donner des dons pour donner à d'autres pasteurs. On soutient des missionnaires avec les dons, on paye le café, on a aussi un financement de l'école biblique et des publications. Raphaël est tout heureux d'avoir enfin publié un premier livre, une traduction d'un livre, et si vous ne l'avez pas vu, c'est très bien fait, je crois qu'il y en aura peut-être à la librairie à acheter. Si vous avez besoin d'informations, vous allez le voir, il sera ravi de vous en parler. Et on le remercie pour tout le travail. Mais normalement, dans une église, parce que vous êtes au bénéfice du travail du pasteur et qu'il n'est pas financé par un mouvement, nous sommes affiliés philosophiquement, fraternellement, mais nous ne recevons pas de salaire des églises de Calvary-Chapelle. Des individus et quelques églises font des dons qui sont transférés par l'intermédiaire d'un compte à l'église, et c'est comme ça que nous vivons. Donc c'est important de le savoir. C'est aussi comme ça que Daniel à Lyon et Mike à Paris sont financés. Donc si vous avez à cœur ce qu'ils font de temps en temps, régulièrement, vous pouvez là aussi les contacter pour voir comment vous pouvez leur transmettre une des fonds. Alors c'est des dons que vous faites en plus du don que vous faites à l'église locale. Ça c'est le premier don doit être fait pour l'église locale, pour l'aider à vivre et à grandir, Dieu voulant. Et il dit « Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. » Souvent, les personnes ont l'impression que pasteur, finalement, il la coule douce. Il se la coule douce. Il vient le jeudi soir au Café Colombe. Oui, il paraît qu'il est là le matin, le mardi matin, mais c'est à peu près tout pendant la semaine. Et puis le dimanche, là, il prend sa Bible, il ouvre sa Bible et puis il tchatche pendant une heure. Là. Des fois, c'est un peu trop long. Alors, j'espère du moins que la plupart d'entre vous savez que c'est pas tout ce qu'on fait, que c'est la partie visible de l'iceberg, que avant de pouvoir enseigner, il faut étudier, qu'il y a tout un travail administratif qui prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'activités qui contribuent au fonctionnement de l'Église. Mais Paul insiste sur ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Là encore, c'est deux mots qui sont utilisés pour dire l'exhorter, reprendre les gens, les encourager à faire quelque chose, et la théologie, leur enseigner ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit. Et puis, de peur que, au cas où on se prendrait pour des cadors, si on pensait qu'on est des gens très spéciaux parce qu'on enseigne, on a le privilège d'enseigner la Bible, Paul nous rappelle que c'est l'Écriture, la Bible, l'Ancien Testament, qui dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain », autrement dit, tu ne vas pas lui mettre un sac sur la bouche pour l'empêcher de prendre part au travail, de prendre du fruit du travail qu'il donne. Un bœuf était utilisé pour séparer le grain de la paille et du son qui entourait les graines. Et ça aurait été cruel de laisser l'animal qui a faim marcher dans toute cette nourriture, mais incapable d'en profiter parce que on lui aurait mis une muselière, un sac sur le museau pour l'empêcher de participer aux fruits de son travail. Donc des fois qu'on ait des idées de grandeur, il nous dit, vous êtes comme un bœuf, et si vous donnez, votre travail contribue à nourrir spirituellement les personnes de l'assemblée, elles vous doivent quelque chose en retour. Et puis il dit, donc ça vient de l'Ancien Testament, du Deutéronome 25:4, cette citation. Et puis il ajoute une autre citation, l'ouvrier mérite son salaire. Ça c'est Jésus qui l'a dit dans Luc 10:7. Et c'est intéressant parce que c'est une parole de Jésus, et on va y revenir en étudiant deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, versets 16 et suivants. Mais une petite chose à remarquer, c'est que ici, Paul lui-même, l'apôtre, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, met l'Ancien Testament et le Nouveau Testament au même rang d'écriture. Souvent, lorsque Paul va parler de l'écriture, des saintes écritures, on va dire oui, mais il ne pouvait pas. Il se référait à la Bible qu'il avait à l'époque, et puisqu'il était en train d'écrire ses lettres, qu'elles n'étaient pas encore assemblées, reçues comme inspirées dans une forme finalisée, ce qu'on appelle le canon des écritures de la Bible. Ça s'appliquait à l'Ancien Testament. Mais ça veut dire que le Nouveau Testament, il n'est pas aussi fiable, il n'est pas aussi inspiré que l'Ancien Testament. On y reviendra, il y a d'autres passages qui militent en faveur de cela. Mais ce texte en particulier, le fait qu'il parle de la Bible, l'Écriture, et qu'il mette un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament, montre la valeur qu'on peut accorder au Nouveau Testament comme à l'Ancien. Ça, c'est souvent un sujet de débat lorsque on aborde la valeur de la parole de Dieu, de la Bible. Voilà un endroit où vous avez une réponse claire. L'ouvrier mérite son salaire. Si quelqu'un fait du travail pour vous, vous allez le payer. Ou sinon, il ne viendra plus travailler pour vous. Il faut donc honorer. C'est une façon de payer les anciens. Il faut aussi les protéger. Verset 19, « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » On a déjà abordé ce sujet du « qu'en dira-t-on » des cancans, des calomnies, des propos qu'on rapporte sans avoir vérifié ses sources. On voit la puissance destructrice des rumeurs. La semaine dernière, apparemment, une rumeur a fait que la Société Générale a perdu près d'un quart ou d'un tiers de sa valeur financière. Des choses qui n'avaient pas été vérifiées, des choses qui ont dû être démenties, mais le mal avait déjà été fait. La banque n'a pas repris son cours d'avant ces rumeurs. On peut pratiquement, et c'est même envisagé maintenant, dire que les terroristes peuvent utiliser la rumeur. Ils n'ont pas besoin de se faire prendre avec des explosifs sur le corps. Ils peuvent orchestrer une campagne de malédiction, une campagne de calomnie, une campagne de rumeur sur l'état financier des États, des gouvernements et les marchés, comme on dit. Les marchés, c'est vous et moi, c'est pas une entité qui serait venue d'ailleurs. Est-ce que vous voulez garder votre argent à la Société Générale si la banque est près de la faillite? Non, vous allez la retirer et c'est vous les marchés. Vous allez aller à la banque et vous allez dire « Je veux mes sous ». On a des économies pour l'Église qu'on utilise pour les travaux qui sont à la Société Générale. Et avec nos anciens, on s'est dit est-ce qu'on doit envisager, alors pour l'instant on ne le fait pas, mais on peut agir en tant que marché. Tout ça pour dire que les rumeurs, c'est terrible, c'est destructeur. Mais c'est encore plus destructeur pour la réputation d'une personne. Et la Bible, encore une fois, est très pratique et très sage, pleine de sagesse. C'est la sagesse divine. Elle nous dit que si quelqu'un fait des critiques, vous devez les écouter que s'il y a des témoins, si vous êtes deux ou trois témoins. C'est du bon sens. C'est comme cette fameuse affaire à New York, dans un hôtel, Sofitel. Apparemment, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a peut-être quelques preuves matérielles. Mais c'est tellement plus clair quand il y a des témoins. Et la Bible nous dit, si on vous dit du mal d'un pasteur ou d'un ancien ou de quelqu'un dans l'Église, dans un poste de responsabilité, dans ce cas, c'est vrai pour tous. Refusez de le croire, refusez de le répéter, demandez s'il y a des témoins. Et souvent les gens aiment bien se mettre en valeur en colportant des choses. Eh ben, tu sais pas la dernière? Non. Quoi? Ben, on a vu Pierre, il parlait à des jeunes filles dans la rue, là, et j'ai pas l'impression qu'il était en train de leur annoncer l'évangile. Oh! C'est pas vrai! Oh là là! Et tu sais pas? Et à la fin, j'ai été pris en flagrant délit d'adultère. Ça va très vite. Et une façon de respecter vos anciens, c'est de ne pas colporter. Et c'est vrai, encore une fois, parce que là, il parle des anciens, mais c'est vrai pour tout le monde. Et avant de répéter quelque chose, encore une fois, même si ça vous démange, parce que vous avez toujours votre vieille nature, vous aimeriez bien être le premier à annoncer une nouvelle intéressante, un peu salée ou quelque chose, demandez-vous quelle est la motivation de mon cœur. Est-ce que c'est pour me mettre en valeur, abaisser l'autre en disant du mal de lui? Est-ce que c'est parce que j'en ai marre de parler de la pluie et du beau temps, ou moi j'ai trouvé un sujet, c'est pas brillant, mais examinez votre cœur et taisez-vous la plupart du temps. On a parlé du sujet, je vous ai dit que j'avais une nouvelle que j'aurais bien aimé partager avec Nancy, mais j'ai dit c'est pas édifiant, je vais pas la partager. Et c'est un combat. Le même genre de sujet est revenu dans la conversation avec Nancy et j'ai failli succomber. Et j'ai dit, oh, ça fait longtemps, maintenant je peux... Et j'ai dit, non, c'est le Seigneur qui m'a dit, non, non, pas de colportage, pas de mauvaises paroles vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. C'est pas édifiant, c'est méchant, c'est pas quelque chose qui plairait à Dieu. Est-ce que Jésus le ferait? Non. Il y a un petit passage dans 1 Corinthiens 9 qui explicite un peu ce terme d'honorer en payant. Verset 1 Corinthiens, c'est page 193 dans la Bible à la Colombe. 1 Corinthiens 9, verset 9, on va lire à partir du verset 7. Paul disait en fait qu'il assurait sa propre ses propres besoins en travaillant lui-même, pour pas qu'on puisse lui reprocher justement de vivre au crochet de ses fidèles. Et il disait, verset 7, « Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais ?» Vous n'allez pas vous embaucher. Si on vous embauche dans l'armée, vous espérez que là, on va vous nourrir, vous loger, vous blanchir, vous kakir, vous habiller en kaki. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Quand vous avez faim et que vous avez travaillé toute la journée, qui a une belle grappe, vous en prenez une pour vous. Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Est-ce en homme que je parle ainsi ? La loi aussi ne le dit-elle pas ? Et verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. » C'est le verset qu'il recite dans 1 Timothée 5, 17 ou 18. Et oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels ? Question. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel, de même aussi que le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Donc c'est très biblique, encore une fois, je lis ce passage, c'est pas pour vous inciter à me verser un salaire, vous êtes invité à verser la dîme, et avec cette dîme, pour l'instant, nous devons faire face au remboursement, aux exigences financières, mais la dîme, vous devez la verser régulièrement, comme vous le décidez en votre cœur. C'est une question de discipline et une question de bénédiction. Dans Malachie 3,10, il est dit « Essayez de donner au Seigneur et vous allez voir comment il va vous bénir. Vous pouvez le mettre et c'est le seul domaine dans lequel vous êtes invité à le mettre au défi. C'est dans le domaine de la générosité vis-à-vis de l'Église, du peuple de Dieu. » Malachie 3,10, « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » C'est un principe biblique qui n'est pas très logique. Vous dites que si vous donnez de l'argent aux autres ou à l'Église, vous allez vous démunir. La Bible nous dit, faites-en laisser et voyez si ce que je vous dis n'est pas vrai, vous allez être béni. Alors ça peut être matériellement ou spirituellement ou la joie de donner. En retour, par Dieu. Dieu ne veut jamais être obligé de vous rembourser, il vous bénit au-delà de ce que vous pouvez donner. Et si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'avez jamais tellement fait l'expérience de donner de vos ressources avec joie, c'est à l'époque c'était la dîme, donc c'était un dixième des revenus par lesquels on montrait que tout ce qui nous appartenait était en fait à Christ, et on le symbolisait en donnant une partie de la récolte, un dixième de la récolte. Et souvent, si on n'a pas cette générosité dans le cœur, il est facile pour Dieu de nous montrer que si on vit en dehors de ses principes, on n'est pas béni. Et combien d'agriculteurs qui ne sont pas prêts à donner de leurs ressources pour aider les autres? Il voit d'un seul coup la grêle arriver. Alors je ne dis pas qu'à tous les coups c'est une punition de Dieu, mais on voit que on essaye de garder des fois l'argent qu'on a, quand c'est en fait l'argent que Dieu nous confie. on va pas donner la dîme à l'Église parce que c'est vraiment serré ce mois-ci. Et puis voilà que quelque chose qu'on n'avait pas prévu, la voiture tombe en panne, il faut changer l'alternateur. Combien ça coûte ce anal? 250 €. Alors, c'est pas encore une fois, c'est pas de dire, bon, si vous donnez la dîme, vous aurez jamais de dépenses imprévues, mais sachez que votre argent ne vous appartient pas. Et que la meilleure façon de l'utiliser, c'est de le donner. Et que Dieu nous promet que si on le donne, il connaît notre cœur, il va s'assurer que vous avez encore plus pour donner. Et ce principe, il est pas logique. Les gens du monde disent, c'est fou. Tu t'es absenté quand on a fait les soustractions au cours élémentaire ou ça, tu es tombé sur la tête. Je vous encourage à le faire. Et c'est le principe du premier film de l'histoire, l'arroseur arrosé. Celui qui arrose est arrosé, mais dans un bon sens, pas... Dieu se charge de vous donner des ressources pour vous continuer à donner. Alors il ne faut pas dire, je vais être riche, donc je vais donner plein, et puis Seigneur, ça ne vient pas. Il voit votre cœur. Si vous savez que l'argent lui appartient, vous lui demandez comment il veut que vous l'utilisiez. Les respecter en les payant, les protéger des fausses accusations en vérifiant qu'il y a des témoins, les reprendre, parce que les pasteurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas sans péché. Il y a des péchés plus ou moins graves, mais ceux qui pêchent, sous-entendu de façon sérieuse, il faut les reprendre devant tous. Je pense que ça signifie en public, devant l'Église, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Alors il y en a qui disent, oh, les tous, ça parle des autres responsables dans l'Église, pour que les autres responsables... Je crois que c'est un principe très sain, que s'il y a un péché, on a vu précédemment, il n'y a pas longtemps, la discipline dans l'Église, dans Matthieu 18, où là on est encouragé à aller d'abord aller voir son frère qui a péché, et puis de le reprendre s'il veut pas changer de vie ou de abandonner son péché, on dit d'amener un ancien avec vous. Donc il y a quelque chose de très graduel jusqu'à ce qu'on en parle devant toute l'Église et qu'on dise ne donnez pas de cette personne a fait des choses qui sont des péchés et on vous demande de faire attention de pas les... Ça va même jusqu'à ne plus les recevoir comme des chrétiens. Alors je ne pense pas que c'est une excommunication, mais c'est de considérer qu'en fait ils n'ont rien compris à l'Évangile, qu'ils ne sont pas sauvés et qu'on peut les traiter comme des personnes qui n'auraient pas encore reçu le salut de Jésus-Christ en eux, de Dieu par Jésus-Christ, par la foi en Jésus. Et là, il faut que... Parce que sinon, si on ne dit rien, on accepte le péché et on peut voir ensuite l'Église qui n'a pas de dynamisme, qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de qui ne grandit pas, qui n'a pas d'influence pour l'Évangile. Si le péché est caché, n'est pas confessé publiquement... C'est comme un cancer qui ronge de l'intérieur et c'est quelque chose qu'il faut mettre au grand jour. Il demande vraiment de le faire. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus. Il est solennel. Il dit à son jeune protégé, surtout s'il y a du péché parmi les anciens, il faut que se soit annoncé s'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils ont une responsabilité supplémentaire. Jacques 3, 1 dit que « Ne soyez pas nombreux, mes chers frères, à des enseignements, parce que vous portez une responsabilité plus grande. » Ça, c'est un verset que dont je me passerais bien. C'est les versets qu'on aimerait bien, dans une nouvelle version, laisser de côté, mais il est là. Pas de préjugés, pas de favoritisme. C'est pas parce que c'est un ami ou c'est quelqu'un de la famille ou qu'on doit... Non, il faut suivre la justice de Dieu telle qu'elle est décrite et déclarée. Les anciens aussi, il faut les nommer, les établir. Et c'est à partir du verset 22, il dit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». Souvent, bibliquement, lorsqu'on confère la responsabilité de pasteur, d'ancien à quelqu'un, on va, le collège des anciens ou les personnes les plus mûres dans l'assemblée vont se réunir autour de la personne et lui imposer les mains et prier. Et c'est une façon de mettre à part la personne pour le service de Dieu à temps plein ou à temps partiel. Il n'y a pas d'horaire. Mais il dit ne pas le faire avec précipitation. Parce qu'en faisant ça, on se rendrait complice des péchés d'autrui. Et puis il a ce rappel, toi-même, garde-toi pur. La pureté du pasteur, de l'ancien, c'est quelque chose qui est primordial. C'est quelque chose qui est dans une société où n'importe quelle chaîne de télé montre des choses qui sont pas bonnes, que ce soit de la pornographie ou de l'érotisme ou des blagues. Il y a des blagues maintenant sur des chaînes de grande écoute qui auraient fait se cacher de honte, rougir mes grands-mères. Et nous sommes dans ce monde, la publicité, les panneaux, les affiches, nous devons nous garder purs. Et ça sous-entend qu'on a une responsabilité. On peut dire, ah ben, on est complètement bombardé, donc je me laisse un peu bombarder, c'est comme les rayons cosmiques. Non, on peut choisir une autre route, on peut choisir délibérément de ne pas regarder du côté de la plage aux heures de grande affluence pour pas voir des femmes dénudées, des hommes dénudés, dans certaines plages à Nice, malheureusement. Je ne vous dirai pas lesquelles. Sans doute, vous les savez un peu. De ne pas imposer les mains avec précipitation. Laisser le temps aux gens, aux personnes, de faire leur preuve, de voir dans leur fidélité, dans leur constance, dans leur influence, dans leur témoignage, dans leur bonne réputation, de voir que ce sont des personnes dignes de cette responsabilité. Et ce verset m'avait aidé. Une fois, il y avait un pasteur dans une église de Nice qui m'avait demandé de venir avec lui pour imposer les mains à un jeune homme qui semblait très prometteur. Et j'avais moi-même, pour l'avoir connu par ailleurs, avant que ce pasteur ne le connaisse, connu ce jeune homme et trouvé des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Je sentais que c'était quelqu'un qui connaissait le langage, quelqu'un qui voulait être devant, qui voulait se mettre en valeur, qui bombardait tout le monde avec son grand dynamisme, etc. Ça fait déjà une dizaine d'années, donc ne cherchez pas dans vos têtes qui c'était, vous ne l'avez sans doute pas connu. Mais j'avais un, comment on dit en anglais, un check. J'avais un problème dans mon âme, dans mon esprit plutôt. Je disais, le gars, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et donc j'ai décliné l'offre de ce pasteur, je lui ai expliqué que j'avais mis des réserves. Je lui ai dit, oh non, il est formidable, c'est lui qui s'occupe de ça, de ça, de ça. Et il lui a imposé les mains pour le reconnaître comme un ancien dans l'église, etc. Et 2 mois plus tard, le gars a quitté sa femme pour partir avec une autre femme, on ne l'a plus jamais revu dans la région. Et c'était ce verset qui n'avait pas été appliqué. Le pasteur était tellement content de trouver enfin quelqu'un qui avait l'air formidable qu'il était prêt à lui signer le chèque en blanc, entre guillemets. prudence. Et puis, un verset que beaucoup aiment bien prendre pour dire « Ah, on peut boire du vin. Cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Alors, si vous voulez trouver des versets qui justifient qu'on puisse boire du vin, il y en a plein, je pourrais vous en donner, mais n'utilisez surtout pas celui-là. Parce qu'il n'a rien à voir avec le fait de dire, quand tu es stressé, tu te détends un peu, tu prends un petit verre, et si c'est bon un verre, deux verres, c'est encore mieux, et ainsi de suite. Non. Apparemment, Timothée, non seulement il était un peu un paria, il était un peu un exclu, mais c'était quelqu'un qui avait une santé fragile, et le vin a des propriétés médicinales. Les Américains ont trouvé qu'on pouvait vendre, ils vendent maintenant des extraits du tanin de vin rouge contre le cholestérol. Alors vous pouvez les prendre en gélule, ou alors vous prenez un petit verre. Mais là, c'est uniquement, n'utilisez pas ce verset pour justifier votre consommation excessive de vin ou quoi que ce soit. La Bible parle beaucoup du vin, mais surtout plus souvent de ses dangers, même si la Bible n'est pas légaliste. Jésus, son premier miracle, ça a été de transformer de l'eau en Coca-Cola. Et non, en vin. Et c'était un vin très bon. Mais le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Proverbe 20:1. Ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Proverbe 31, etc. Donc, la Bible parle beaucoup du vin, c'était une production de l'Antiquité et de la plus haute Antiquité. Mais 85% du temps, elle nous met en garde contre le vin. Donc, si vous prenez un peu de vin, c'est pas un péché, mais si vous avez un problème avec l'alcool, en général, par exemple, lorsqu'on a des repas en commun à l'église, on n'encourage pas les gens à boire de vin. C'est souvent difficile, la tradition, le style de vie français, de manger un bon camembert sans un petit coup de vin rouge, c'est difficile, mais parce qu'on sait qu'il y a dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui va avoir des problèmes, et c'est mieux de ne pas tenter notre frère dans ses faiblesses ou notre sœur. Les péchés, verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, chez d'autres ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Il nous dit, en fait, sachez que tôt ou tard, les péchés vont être connus. Et de même, les œuvres bonnes. Des fois, on est un peu découragé parce qu'on se dit, personne ne voit. Personne n'est. On serait content que personne ne voit certains de nos péchés secrets. Et on serait content que certains voient nos bonnes œuvres. Je suis venu faire le ménage samedi ou vendredi dernier, mais le pasteur n'est même pas là. Si j'avais su, je serais venu le lendemain pour qu'il me voie. Non, il y a quelqu'un qui est toujours là et qui voit tout, et c'est Jésus. Vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est une vérité qui est répétée dans toute la Bible, Hébreux notamment. Il faut en être bien conscient. Et savoir aussi qu'il y a un jugement qui attend. On a des comptes à rendre devant Dieu. J'ai trouvé un article dans un journal, c'est la semaine dernière, et ça va pas manquer d'arriver, d'être traduit en français avant les livres que Raphaël est en train de traduire. Ça va être sans doute un best-seller. Qui dit qu'en fait, de croire à l'enfer, c'est complètement stupide. l'idée qu'il y a une rétribution, c'est de la folie, parce que c'est même pas du tout le caractère de Dieu. Et c'est l'argument, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il aurait pu inventer l'enfer ? Et il y a un livre par un certain Rob Bell qui, je sais plus le titre, mais qui dit qu'en fait l'éternité, le feu éternel, le mot qui est utilisé, c'est pas vraiment le mot qui veut dire éternel dans le temps, c'est plutôt éternel dans l'importance. Que le mot qui est traduit par enfer, en fait, c'est la colline à Jérusalem où on brûlait les ordures. Oui, mais c'est une illustration de ce qu'est l'enfer. Et que Jésus enseignait que Dieu était plein d'amour, plus plein d'amour qu'un parent, qu'on ne peut pas croire qu'il va vouer des hommes à la damnation éternelle. Et que ceux qui disent on y croit parce que la Bible nous l'enseigne, c'est vraiment des gens avec une intelligence médiévale, des obscurantistes. Le titre de son livre, c'est Love Wins, l'amour triomphe, ou le triomphe de l'amour. Et il dit, en fait, ça va se vendre comme des petits pains, je peux vous le garantir que ça sera en France dans pas longtemps. On en reparlera lorsque ce sera dans les premières ventes à la FNAC. Et on va vous dire, vos amis, vos parents vont vous dire, tu n'as pas vu ce qu'ils disent dans... J'ai lu dans l'Express qu'ils ont prouvé maintenant qu'en fait l'enfer n'existe pas. Qu'un Dieu d'amour ne pourrait pas avoir fait un tel endroit. Alors la réponse la plus simple, et Tonio l'a déjà évoqué le mardi soir, c'est alors pourquoi la croix ? Si c'était si facile et s'il n'y avait aucun danger, pourquoi est-ce que Jésus serait venu mourir pour nos péchés, pour mes péchés et les vôtres ? Voilà, c'est la certitude d'un jugement à venir, c'est aussi quelque chose qui nous permet de vivre dignement devant Dieu. On va s'arrêter là, parce qu'il est déjà tard.